je suis contente que vous soyez si nombreux à venir nous écouter. On va essayer de ne pas vous décevoir. Surtout, je vais vous prier de ne pas oublier que pour nous aussi, c'est très fructueux de parler de ce sujet parce qu'il nous préoccupe. Comme vous voyez, on a un dossier dédié au sujet. Et donc, je m'appelle Iulia Badea-Ghirite. Je m'occupe de tout ce qui concerne la presse roumaine et moldave pour Presse Europe. Donc, aussi un peu des Roms, beaucoup même. Ma collègue s'appelle Emmanuelle Moreau et s'occupe de la France et de la presse francophone, toujours pour Presse Europe. On est basé à Paris, on existe depuis 2009 en tant que site en 10 langues. Comme vous voyez, vous pouvez nous lire dans plusieurs langues les plus parlées en Europe. On est là pour essayer de résoudre au moins un dilemme. Pourquoi il y a tant d'incompréhension autour de Rome? Pourquoi pour eux c'est dur à se faire accepter? Pourquoi pour nous c'est dur de leur faire comprendre qu'ils ne peuvent pas tout simplement venir et essayer de continuer à vivre selon leurs coutumes du moment où ils sont dans un pays qui n'est pas leur pays d'origine? Il faut qu'on soit nous compréhensifs et eux aussi. Donc on a essayé d'aborder ce sujet en plusieurs chapitres. On va vous parler un peu de la situation des Roms dans toute l'Europe, dans toute l'Union européenne, sachant qu'on estime à peu près à 6 millions de Roms dans l'Union européenne, mais à 12 millions de Roms en Europe. Ce qui veut dire, si on fait une comparaison, plus que la population entière de certains pays, comme Malte, comme Slovénie, comme Estonie. Donc on pourrait peut-être même parler d'une nation rome, finalement. Après, on va essayer Emmanuel va essayer de vous parler de la situation des Roms en France. Moi, je vais revenir par la suite avec la situation des Roms en Roumanie, puisque c'est le pays dont je m'occupe. Après, deux, trois mots sur la stratégie européenne en cours pour offrir un cadre communautaire à l'intégration des Roms. Et finalement, quelles sont les initiatives locales, nationales et européennes qui peuvent bouger les choses? Quelles sont les initiatives qui viennent aussi de la part de la population rome? Et bien sûr, vous aurez la part à la question, le droit à des questions. Alors, je vais commencer de manière abrupte. Pardonnez-moi, je vais dire que tous les Roumains sont des Roms. Ne criez pas. Une large partie de la population française pense en effet ceci. C'est un des premiers mythes et c'est un des premiers motifs d'incompréhension en France. Je peux vous dire donc que ce n'est pas vrai. La population rome compte en Roumanie environ 1,7 million de Roms sur une population de 19 millions. Donc tous les Roumains ne sont pas des Roms. Vous avez des Roumains peut-être autour de vous au travail, ou peut-être dans votre famille. Vous avez des Roumains qui sont en effet des Roms et qui peut-être ils sont bien intégrés en France ou en Europe. Mais vous avez aussi des Roumains qui sont des personnes qui m'ont dit ou qui n'arrivent pas à trouver un travail. Qui m'ont dit, qui vous dérangent pendant que vous prenez le tram ou que vous voyez devant les boutiques. La deuxième chose que je vais vous dire aussi, c'est que tous les Roms sont des Roumains. Ça aussi, c'est très faux. Donc il ne faut pas mélanger. Et je pense que c'est une des choses qui ne nous fait pas honneur en tant que Français de mélanger et de mettre dans un seul bocal tout le monde. En France, pour tout vous dire, selon les dernières statistiques de l'Eurobaromètre, il y a seulement 20 000 Roms. C'est presque rien en comparaison avec l'Italie, où vous avez 140 000 Roms. L'Espagne, 750 000 Roms, la Hongrie où vous avez 750 000 Roms encore, la Bulgarie 300 000 Roms et je peux continuer. Donc la population rome en France n'est pas nombreuse, mais elle est très, on la voit, elle a ses caractéristiques et c'est pour ça aussi que je suppose qu'elle nous gêne. On parle bien sûr des explosions qui ont commencé, comme vous vous rappelez, c'était 2009, oui. C'était du temps du président Nicolas Sarkozy. Et si certains de vous se rappellent bien, on a été bien épinglés par la Commission européenne, par la voix de Viviane Reding, qui disait qu'il faut cesser ces explosions, et si on le fait, qu'on le fasse de manière légale, et aussi par cas, cas par cas. il y a eu les expulsions d'été 2012 avec le Premier ministre Manuel Valls. Et la Commission européenne, de nouveau, nous a montré du doigt en disant attention, il faut. Bref, où nous sommes aujourd'hui, Manuel Valls a fait une visite en Roumanie où il a rencontré le conseiller pour les Roms du Premier ministre roumain qui s'appelle Victor Ponta. Et donc ce conseiller, il est rome lui aussi. Donc c'est déjà une avancée de la part des Roumains aussi de faire ça. Et donc aujourd'hui, on parle des expulsions, mais il n'y a plus l'aide au retour. Mais ma collègue va vous parler plus de la situation en France. Donc,
bonsoir. Quand on a su avec Julia qu'on venait faire cette conférence ici, on s'est mis à réfléchir sur le sujet. Et j'ai pensé à une récente exposition qui avait lieu au Grand Palais à Paris, qui revenait sur le mythe de la Bohème, donc, dont Julia d'ailleurs a couvert l'événement sur son blog de Presse Europe. Et dans le catalogue de l'exposition, on pouvait lire que l'expression « vie de Bohème » était apparue sous l'Ancien Régime et qu'au XIXe siècle, c'était un adjectif déjà un peu discriminant qui qualifiait quelqu'un qui vivait en marge de la société. Et quand on évoque la Bohème, on pense évidemment à l'idée un peu romantique d'un personnage réfractaire à l'ordre établi. Et aujourd'hui, cette expression est rentrée un peu dans le langage commun avec l'expression que vous connaissez tous, par exemple, de bobo, de bourgeois bohème, qui sont l'association de deux termes assez antinomiques. Et pourquoi je commence mon exposé comme ça? Parce que pour moi, quand je pense à Rome, je pense à une relation mitigée, ambiguë et assez contradictoire avec cette population et ce qu'elle représente. Le bohémien, comme on disait à l'époque, attire, mais parce qu'il défie les règles et l'ordre établi, mais en même temps, il dérange, et comme on peut le voir aujourd'hui. Donc pour moi, les Roms sont un peu le peuple de l'amalgame. On fait souvent l'amalgame entre Roms, entre gens du voyage, entre situations illégales, qui conduit à la criminalité, puis à la non-intégration, et donc la boucle est bouclée au milieu de tous ces termes. Et donc je pense qu'en France, plutôt qu'une parler du question Rome, on a plutôt affaire à une double question Rome, parce qu'on ne parle pas, encore une fois, on amalgame beaucoup quand on parle de Rome. Parce qu'en France, la grande majorité qui ont des gens qui ont une origine Rome est sédentarisée, n'est pas facilement identifiable, et ils sont pourtant systématiquement discriminés. Donc, je pense qu'en France, on peut faire la différence entre les Roms migrants et entre les gens du voyage, qui sont cette catégorie instaurée par l'administration dans les années 70, et qui inclut aussi des non-Roms, d'ailleurs. Et donc, ces gens sont à peu près 400 000 personnes de nationalité française depuis plusieurs siècles en France. Et donc, ce n'est pas du tout la même chose que ces gens du voyage, que les Roms migrants, qui, eux, sont venus surtout après les années 90, à la chute des régimes communistes. Et bien qu'ils sont présents depuis de nombreuses années, ils sont toujours considérés comme illégaux. Et ils ont énormément de difficultés à s'insérer, comme vous le savez, puisqu'ils vivent toujours en marge de la société et souvent dans des campements informels. Et comme l'a dit Julia, il y a aussi cet amalgame du fait qu'on pense qu'ils sont très nombreux et qu'en fait, les Roms migrants ne sont pas les plus nombreux en France par rapport aux gens du voyage sédentarisés. Comme vous le savez, les Roms migrants viennent beaucoup de Roumanie et de Bulgarie, qui sont deux pays qui sont entrés dans l'Union européenne en 2007, mais qui bénéficient, donc qui sont plutôt encore un peu discriminés par des mesures transitoires dans cette adhésion. Et notamment, ces mesures interdisent l'accès à l'emploi, à certains emplois, même si les choses ont été un peu assouplies ces derniers temps, puisque par exemple la taxe pour l'employeur a été abrogée, et que la liste de métiers accessibles aux Roms a été élargie. Leur séjour légal est limité à 3 mois, donc ça devient très, très difficile de passer ce délai de pouvoir rester en position légale. Et comme on l'a vu aussi très récemment, avec le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, qui n'a pas vraiment changé le traitement traitement politique de cette population, comme on l'a entendu le 15 mars dernier, quand il a déclaré que ces gens n'avaient aucune envie de s'intégrer. On s'est posé la question aussi avec Julien en parlant que ces gens ont surtout envie de vivre comme ils vivent. Donc pourquoi faire un effort d'intégration si eux-mêmes ne s'intègrent pas? Et je pense que dans cette volonté de les intégrer, et puis on dit finalement c'est eux qui ne veulent pas s'intégrer, il y a eu une volonté, comme l'a montré le ministre de l'Intérieur, de partir en Roumanie dès qu'il est arrivé en mandat, avec cette idée de fixer les populations dans leur pays d'origine par l'intermédiaire de programmes de développement. Donc, est-ce que la solution n'est pas dans la coopération entre la Roumanie et la France, puisque la France a l'air, pour l'instant, de décider que ces gens ne voulaient pas s'intégrer et que donc on n'allait pas les intégrer. Donc, Julia va nous parler un peu de cette situation en Roumanie et de ces passerelles qui peuvent se faire entre Paris et Bucarest et qui pourraient fixer ces populations, comme l'a dit le ministre.
Déjà, fixer une population n'est pas dans les habitudes des Roms. On sait très bien qu'ils vont là où ils peuvent soit trouver de l'argent, soit faire appel à des brèches dans la loi ou faire appel à la générosité et l'humanité des peuples. Donc, ils sont maintenant presque dans tous les pays d'Europe, même en Suède, en Islande. Le problème avec les Roms, ce n'est pas autant le fait qu'on veut les fixer, mais le fait qu'on n'essaye pas de travailler avec eux, qu'on en essaye de les fixer quelque part. Il ne faut pas croire, je pense, étant moi-même née en Roumanie et ayant vécu dans une ville où il y avait beaucoup de Roms, j'ai eu des collègues de classe Roms, des collègues de lycée Roms, j'ai maintenant des amis qui ont réussi en France et qui sont Roms, comme cette fille qui vient de Lyon et qui est entrée à la Sorbonne et qu'elle a quitté le camp des Roms parce qu'elle ne voulait plus mendier et elle veut même devenir avocate. Elle vient d'écrire un livre qui s'appelle « Je suis tigane et je le reste ». C'est un seul exemple. Il y a une autre fille rome qui vient de Roumanie et qui a gagné le concours national pour les métiers sans avoir des papiers français. Et elle a dit au Sénat, devant le président du Sénat, en recevant son prix, « J'ai pas de papiers et je suis rome et vous venez de m'accorder le prix de meilleure artisane de France. » Donc il y a des Roms qui nous font honneur par le fait qu'ils viennent, qu'ils s'intègrent, qu'ils parlent la langue française et qu'ils essayent de faire quelque chose pour nous aussi, parce qu'ils aiment vraiment la France. Donc, comme Bruno Couchy, Jadis, ils ont parcouru parfois 3000 km à pied pour arriver, et ce n'est pas une blague. Alors en Roumanie, la situation n'est pas totalement exacte avec ce qu'on véhicule dans la presse française, genre ils sont discriminés, ils n'ont pas accès à l'école, ou ils n'ont pas accès à l'éducation ou au travail. En partie, c'est vrai, parce qu'en Roumanie, comme ici et comme ailleurs, ils sont pointés du doigt quand ils arrivent dans un endroit public, parce qu'ils sont mal habillés, certains, parce qu'ils ne sont pas lavés, tous, parce qu'ils sont assez bruyants, parfois, mais aussi parce qu'ils sont différents, ils ne ressemblent pas tellement. Je veux dire, du point de vue de leur coutume, ils aiment bien chanter, on les aime quand ils sont comme ça, mais pas tout le temps. Quand on les reçoit pour les interviews à l'embauche, il y a une certaine discrimination, et ça c'est vrai aussi. Dans les hôpitaux aussi, parfois parce qu'on ne parle pas leur langue. En ce qui concerne l'école, l'école est obligatoire en Roumanie à partir de 6 ans, donc pas avant. Ils ont tous droit à l'école, mais il y a un problème, encore une fois, lié à leurs coutumes, qui sont ancestrales. Elles ne datent pas de 10 ans, mais de centaines d'années. Depuis le 14e siècle, quand ils ont commencé à envahir l'Europe,